affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. À l'heure où nous enregistrons notre émission, la France et le monde sont encore agités par de nombreux débats relatifs à la gestion de la pandémie de Covid-19. Ces controverses ont bien sûr été de nature scientifique, mais pas seulement. Il y entrait à l'évidence aussi des enjeux politiques, économiques, culturels et sociologiques. Il est probablement trop tôt pour analyser les différents ressorts de ces controverses. En revanche, il est dès à présent possible de les mettre en perspective en se plongeant dans l'histoire pour découvrir que, de tout temps, les politiques de santé ont dû composer avec les espérances, les ignorances et les réticences des populations dont elles entendaient prendre soin. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons en effet la chance et l'honneur de recevoir l'historien Yves-Marie Berset, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à l'occasion de la réédition toute récente par les éditions du CERF de son ouvrage sur la naissance du vaccin, un ouvrage qui précisément examine les résistances dont peuvent faire l'objet les politiques de santé publique. Monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous répondre dans les limites d'un savoir historique qui, bien sûr, n'est pas lié au monde contemporain.
Alors le moins qu'on puisse dire toutefois, c'est que cette édition tombe à point nommé, et pourtant vous me disiez qu'il s'agissait d'un heureux hasard.
Totalement. Ce livre qui résulte d'un travail très approfondi accompli dans les années 1980 et publié en 1984 fait l'objet d'une réédition assortie d'une postface que j'ai rédigée en décembre 2019 sans avoir du tout prévu ce qui pouvait survenir dans les mois suivants. Ce livre est sorti des presses en février 2020, la postface que j'ai rédigée à la vision, si on peut dire, de ce qu'il est advenu à partir en France à partir du mois de mars, ne paraît pas ridicule. Il me semble que les médecins, bien sûr, n'apprendront rien dans mon propos, mais ils peuvent y reconnaître, s'ils ont des instants de loisir, des exemples qui ne sont pas riches d'enseignement, mais qui leur prouvent qu'il y a, à travers les âges, une sorte de permanence de relation patient-médecin, des formes de relation qui est entre la maladie et la société, qui sont presque intemporelles. L'histoire ne se répète pas, mais elle parle toujours en langue humaine, c'est-à-dire qu'on peut y reconnaître, à travers les âges et les civilisations, des attitudes, on dira, fondamentales, comme par rapport le regard envers l'enfance, la confiance du malade, du souffrant envers le médecin, la doctrine du médecin confronté à l'épreuve, la différence aussi entre la médecine théorisante, savante, et puis la médecine empirique, clinique, au chevet du malade. Tout ça sont des considérations qui traversent les siècles, pourrait-on dire. Et en ce sens, mon livre peut être, je dirais, un dérivatif intéressant pour les médecins, même pour les virologues les plus avancés dans la recherche.
Alors justement, nourrissons-nous de cette analogie, et peut-être faut-il faire, d'ailleurs je suis le plan de votre ouvrage, par planter le paysage. En France, d'habitude, lorsqu'on parle de la naissance du vaccin, spontanément on pense à Pasteur, mais en réalité votre ouvrage parle d'un autre événement et d'une autre époque. Pouvez-vous nous décrire tout cela?
Alors, le vaccin tire son nom de l'inoculation d'une maladie vétérinaire la cowpox ou la picote des vaches, dont un médecin anglais de la fin du XVIIIe siècle, exactement en 1796-1798, avait constaté que les vachères qui trayaient les vaches qui étaient atteintes de cette légère infection vétérinaire acquéraient une sorte d'immunité qu'on ne savait attribuer à aucune raison évidente, une immunité envers la variole. La variole qui était la principale tueuse de petits-enfants, qui éliminait dans le monde entier, voilà, cette fin du XVIIIe siècle, 20%, 30% des enfants avant l'âge de 6 ans environ. C'était donc un fléau épouvantable et la découverte, l'expérimentation de Jenner semblait de nous permettre, si vous voulez, une protection et presque une chasse, une disparition de l'infection à terme. On était là à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans l'utopie scientiste, progressiste des Lumières, où il semblait qu'on allait fonder un homme nouveau. Par conséquent, l'idée qu'on allait trouver un moyen médical, supposé savant, qui allait lutter contre le mal, qui allait construire une nouvelle forme d'humanité, c'est quelque chose qui correspondait tout à fait à l'espérance de ce temps et qui allait, en dépit des guerres internationales et révolutionnaires, allait traverser toute l'Europe. On est vraiment au moment des guerres de la Révolution et de l'Empire. Or, on sait l'antagonisme qui opposait à ce moment-là la France et l'Angleterre. Or, en 1800, en pleine guerre entre la France et l'Angleterre, un vaccinateur anglais, Woodville, est autorisé avec un passeport particulier du premier consul de porter à Boulogne, depuis Douvres, le vaccin anglais, donc qui est une humeur de la vache, et d'où le nom de vaccin, qui va permettre, croit-on, et effectivement va préserver un très grand nombre de générations de la dissémination de la variole. Alors, on ne sait pas à l'époque que pourquoi, comment, et on ne sait pas, bien sûr, qu'il y a des microbes, des virus, et c'est en ce sens que, avec l'aperfectionnement de la vision microscopique, c'est seulement avec Pasteur, Lister, dans les années 1860-1880, qu'on identifie la contagion microbienne. Mais l'idée de la contagion, elle était connue des médecins antiques, elle était évidente dans la propagation des épidémies, et dès l'apparition, par exemple, de la peste, ou son retour, mettons, au Moyen-Âge en 1347-1348, les médecins savent bien que la peste est contagieuse. Ils attribuent la contagion à des humeurs, à des odeurs qui circulent dans l'air. Ils ont tort, si vous voulez, en ce sens, mais ils ont compris qu'il y avait une contagion. Et ensuite, on a, au cours du XVIe et du XVIIe siècle, surtout des médecins qui parle de contagium vivum, une contagion animée. Le père Kircher, jésuite allemand établi en Italie dans les années 1650, observe sous des lunettes de le contagium vivum. Alors, ce qu'il voit en réalité, ce sont des globules blancs. Mais lui, il croit qu'il y a là, si vous voulez, des animalcules qui sont capables d'exister dans l'ignorance de l'humanité et de parasiter l'existence des hommes. Donc, ça, vous voyez, dès le XVIIe siècle, on parle de contagium vivum. Pasteur, on est de 200 ans ou 300 ans plus tard, c'est simplement qu'on est parvenu à le voir, à l'identifier.
Alors, lorsque donc, cette vaccine est découverte, ça suscite tout de suite un engouement extraordinaire
Dans le monde entier, on va organiser des expéditions qui transfère le vaccin, le fluide vaccin, dans le monde entier. Et bon, qui est-ce qui est maître des mers à ce moment-là? Ce sont les Anglais. Grosso modo, c'est la marine anglaise qui transporte le vaccin aux États-Unis, aux Indes. Et puis là, se forment des chaînes de vaccination de bras en bras, une transmission intra-humaine qui réussit à porter le vaccin aux États-Unis d'Amérique, au Mexique, en Colombie, et puis de l'autre côté du monde, aux Indes, en Indonésie, au Japon, très tôt. Par des médecins hollandais qui le transportent au Japon à Nagasaki, où seuls les Hollandais étaient admis à fréquenter un port japonais.
Dans votre ouvrage, on s'en rend compte que ce vaccin est à la fois porté, bien évidemment, par des médecins, mais aussi par des administrations, c'est-à-dire assez rapidement. La découverte du vaccin et sa diffusion s'appuient sur des politiques de santé publique.
Il correspond à ces politiciens, ont la même idéologie, la même espérance d'un avenir radieux, d'une progression infinie des savoirs de l'humanité. Par conséquent, la découverte médicale a prise, séduit instantanément. Il faut dire que dans la mesure où, comme je viens de le dire auparavant, le principe de contagion avait été compris depuis plusieurs siècles, au cours du XVIIIe siècle, on faisait désormais des politiques de quarantaine, de prévention, de début d'hygiène. Le mot d'hygiène est hygiène et hygie, et une des filles d'Esculape. Il y a eu deux filles, Panacée et qui guérit tous les maux, et Hygie, qui est la mère de l'hygiène, qui les prévient. Et donc il y a une hygiène politique. Au XVIIIe siècle, les souverains éclairés pratiquent une politique de la santé qui est à base effectivement de début d'hygiène, d'écologie urbanique, enfin urbaine par exemple, en rejetant par exemple les abattoirs ou les cimetières en dehors des cités. Il y a une véritable politique de la santé.
Alors, on pourrait croire que, enfin, vous décrivez que néanmoins ces politiques de santé rencontrent des résistances, mais ce ne sont pas exactement celles qu'on pourrait présupposer ou que l'histoire nous a jusqu'ici légué. On pourrait croire que d'un côté, il y a les gens éclairés ou les régimes éclairés qui seraient partisans du vaccin, et de l'autre, les masses ignorantes de l'ancien monde qui résisteraient.
C'est plus compliqué. C'est ce qu'aiment à croire les médecins et souvent les politiques. Mais en fait, le vaccin se heurte à la propre ignorance, incompétence de la science du temps. C'est-à-dire qu'il y a des tas de vaccinations ratées, il y a des chaînes qui s'interrompent, il y a des vaccinations qui n'auraient pas dû être entreprises du fait d'allergies et qui communiquent ensuite, parce qu'on n'a aucune idée de précaution. L'enfant porteur, si vous voulez, de vaccin, un enfant sain à qui on a inoculé le vaccin et qui va servir de réservoir pour inoculer d'autres enfants, peut être porteur d'une autre maladie infectieuse, la syphilis par exemple, de sorte que en même temps qu'on inoculerait le vaccin, on inoculerait en même temps une protection contre la variole, mais aussi on inoculerait en même temps la syphilis. Et ces accidents scandaleux, épouvantables, interviennent. Il y a bien sûr de quoi ceux des responsables, des médecins qui sont témoins de ces cas épouvantables vont devenir des adversaires farouches du vaccin. Et puis, il y a la résistance, on dira, inerte, invisible, des familles qui hésitent à soumettre leurs tendres petits-enfants à une opération qui leur paraît aventureuse, inutiles, parce que pour le moment ils sont en pleine santé, et douloureuses. Pour toutes ces raisons, il va y avoir une réticence, une résistance, bien entendu, et une résistance silencieuse, une sorte d'inertie qui va ralentir, bien entendu, la propagation. Et il suffit chaque fois qu'il y ait la contradiction d'un retour de variole et le pire, d'une variole d'enfants supposés vaccinés, supposés immunisés, pour, en quelque sorte, conforter les résistances, pour montrer à ceux qui ont résisté qu'ils avaient eu raison de s'opposer à la vaccination. Donc, si vous voulez, il y a tout ce... il faut prendre en compte toutes les errements, si vous voulez, qui pouvaient survenir, et alors c'est ça qui est tout à fait intéressant, qu'on peut rapporter aux périodes contemporaines, c'est-à-dire que d'une part, vous avez le front de ceux qui, au nom de leur certitude de la bienfaisance de l'intervention, la garantissent pure et dure, sans aucune dénuée de toute contradiction, et puis ceux qui ont été témoins de cas tout à fait minoritaires, mais qui les ont scandalisés et qui vont organiser une résistance anti-vaccinique, voyez. Et puis alors, encore une fois, ce qui correspond au schéma idéologique de l'époque, l'idée que les paysans sont ignorants et qu'ils vont, par superstition, par crasse, sottise, s'opposer au progrès. C'est intéressant aussi de voir que, par exemple, dans les politiques de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé, là, dans les dernières décennies, on voit souvent des résistances qui sont basées sur la crainte que cette intervention provoque la stérilité chez les femmes et l'impuissance chez les hommes. C'est des sortes de hantises essentielles, vous voyez, qui ça. Et elles reparaissent, quels que soient, vous voyez, les cas d'innovation médicale. On voit ces deux obstacles qui sont, je dirais, fondamentaux et souvent silencieux, parce qu'on n'ose pas les avouer. C'est peut-être des rumeurs, on dit, vous savez, ça provoque, ça va empêcher les filles d'avoir des enfants. Voilà, et ça c'est quelque chose qui se vérifie aujourd'hui.
Ce qui est intéressant, c'est que pour surmonter ces peurs immémoriales, les partisans du vaccin eux-mêmes mobilisent et ont l'intelligence de mobiliser aussi d'autres sentiments immémoriaux, comme l'amour d'une mère pour son enfant, la volonté de préserver la beauté d'une police, d'une jeune fille, et donc utilisent aussi de très profonds ressorts dans la psychologie humaine.
Les arguments sentimentaux, parce que là, je vous ai posé, c'était comment ce remède qui paraissait merveilleux pouvait susciter des réticences. Mais en fait, l'élan est beaucoup plus fort. Ce qui est vrai, si on veut voir uniquement, enfin, si on veut se focaliser sur l'aspect positif, il est immense, il est tout à fait certain. Dans les premières décennies du 19e siècle, des millions d'enfants ont été préservés de la variole. Seulement, alors, on avance dans le 19e siècle et on s'aperçoit que le vaccin, la picote des vaches et la cowpox est en réalité une maladie vétérinaire assez rare. On croyait qu'on trouverait toujours des vaches dans les prés qui auraient cette affection et qu'on pourrait prélever sur leur pie du fluide vaccin. Or, pas du tout. Dans les années 1820-1830, on n'en trouve pas, ou c'est extrêmement rare. Donc, il y a là un premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est qu'il y a, on est toujours dans les années 1820-1830, on croyait au départ que l'immunité acquise antivariolique était pour la vie. Or, on sait qu'au bout d'une douzaine d'années environ, cette immunité disparaît. Donc, les enfants qui ont été vaccinés vers 1800, vers 1820, ils ne sont plus protégés. Et on va avoir des générations de gens vaccinés entre 1800 et 1810 qui vont attraper la variole et mourir dans les années 1820-1830. Donc, vous voyez, là, il y a une chose, un nouveau scandale qui fait qu'il faut trouver, pour les médecins des années correspondant pour nous, la fin de la Restauration, la Monarchie de Juillet, trouver enfin, un moyen de renouveler le vaccin. Alors, je vous dis comment est-ce qu'on va trouver. Il y avait eu déjà des médecins qui avaient eu l'idée de faire le retour à la vache, c'est-à-dire, il y avait plusieurs. Dans le retour à la vache, ça pouvait supposer plusieurs pratiques. C'était, par exemple, d'inoculer la variole à une vache, la variole humaine à une vache. Or, en fait, il y a une barrière des espèces. La variole ne se développait pas sur la vache. Mais il y a une autre politique qui a été utilisée et qui a réussi, c'était de transmettre la vaccine, qui était devenue intra-humaine, à des vaches, à des génisses. Et elle se développait sans mal, apparemment, pour la génisse. Et désormais, les vaccinateurs, dans les années 1850-60, ont eu des étables. Soit ils promenaient des génisses dans les rues, porteuses de vaccins, soit on avait des étables où, à Naples, à Paris, où on conservait le vaccin sur des jeunes vaches. Et le point intéressant également, la propagation du vaccin aux Indes a été particulièrement efficace dans la mesure où on leur a montré que c'était la vache qui était, si on peut dire, le média, le porteur de ce bienfait pour l'humanité. Alors voilà, c'est ça ce qui s'est passé dans les années 1860, c'est le retour à la vache. Et intéressant, avant, j'avais noté ça dans les années 1980, c'est important, j'ai fait cette étude au début des années 1980. Or, la variole venait d'être éradiquée dans l'ensemble du monde. L'Organisation mondiale de la santé a opéré les dernières, si vous voulez, suppressions, enfin, guérisons de la variole en 1977. Donc, on avait là l'idée qu'on avait pu éradiquer une maladie infectieuse. Et il se trouvait que on ne savait pas vraiment pourquoi, enfin plutôt quelle était l'origine, on savait pourquoi, mais on ne savait pas quelle était l'origine historique des réservoirs de vaccins. Il y avait trois réservoirs de vaccins aux États-Unis et en Union soviétique, et on connaissait leur origine sur environ 50 ans. Mais alors la tradition voulait que ce soit celle de Jenner lui-même enfin bon, on lui cherchait des raisons très nobles, mais il semble que les archives médicales n'aient pas été conservées, qu'on ne savait pas vraiment quelle était l'origine précise, chronologique et géographique des réservoirs de vaccins qu'on avait dans les années 1870, 1970. Alors, l'Organisation mondiale, je reviens là-dessus, pardon, j'ai fait une postface, mais j'ai repris les rapports de l'Organisation mondiale de la santé. C'est en 1977 que c'est en Somalie, un petit port qui est au sud de Mogadiscio, qu'on a trouvé, qui était un port exportateur de bananes depuis le Moyen Âge, une ancienne cité portuaire, où après il y avait des pirates, là, plus récemment. C'est là que curieusement un employé de l'hôpital qui a été où on vaccinait, qui le dernier a été le dernier porteur de variole. Et alors pourquoi l'Éthiopie et la Somalie C'est parce que le Pakistan aussi, c'était les trois zones où dans les années 1960-1970, la variole restait encore fréquente. Pourquoi ? C'est parce qu'on y pratiquait l'inoculation de la variole. Alors, ce n'était pas vraiment une inoculation, c'était simplement le fait qu'on laissait cohabiter. Quand un petit enfant de 2 ou 3 ans avait des pustules varioliques, on laissait ses frères et sœurs et les petits voisins jouer et coucher avec lui, parce qu'on pensait qu'ils auraient une variole atténuée et qu'ensuite ils en seraient libérés, puisqu'il y avait l'idée que beaucoup d'enfants mouraient. Mais 80%, si 20% mouraient, il y en avait 80% qui survivaient. Et on pensait qu'après tout, c'était une étape nécessaire, une dette à payer, si vous voulez, aux maladies de l'enfance, et qu'après les enfants, la variole était au fond une étape nécessaire, et qu'après, ils grandiraient, ils auraient franchi, si vous voulez, un seuil qui permettrait leur puberté, leur croissance. Alors, dans cette optique-là, traditionnelle, de la cohabitation des enfants varioleux, on n'attachait finalement pas tellement d'importance. C'est pour ça ces familles des montagnes ou des déserts considéraient que c'était un mauvais moment, un petit mauvais moment à passer, mais que c'était plutôt une garantie. Et c'était donc une sorte de résistance invisible et silencieuse qui se poursuivaient dans des campagnes lointaines, sans qu'il y ait une opposition doctrinale, vous voyez, organisée. C'était plutôt, l'ignorance et au fond, une très longue tradition qui avait pu avoir ses justifications plusieurs siècles auparavant. Alors, c'est cela que l'Organisation mondiale de la santé a... C'est ces domaines, ces régions que l'Organisation mondiale de la santé a ciblées dans les années 1970. Alors, elle les a ciblées non sans mal, parce que les autorités politiques de ces pays comme l'Éthiopie ou la Somalie, qui avaient une couverture médicale très, très peu dense, très rare, une politique hygiénique très insuffisante, considéraient que le paludisme ou la rougeole tuaient plus que cette variole résiduelle. Et par conséquent, ils n'étaient pas portés à accorder beaucoup de crédit ou de moyens à la lutte contre la variole. C'est ce qui explique, si vous voulez, ce qui se trouve aussi dans des pays africains aujourd'hui, comme la Sierra Leone, le Congo, l'Angola, où il y a le virus d'Ebola, le sida, d'autres fièvres, enfin d'autres maladies infectieuses graves, on peut considérer que telle ou telle vaccination n'ont pas tellement d'importance parce qu'il y a d'autres fléaux bien plus graves dans l'instant.
Ce qui est frappant dans l'ouvrage aussi, c'est de voir à quel point la diffusion de cette pratique repose davantage sur la force de conviction, la volonté de s'assurer la coopération, que par la coercition, même lorsque des législations dites coercitives sont mises en place.
Oui. Alors, il y a aussi une légende des succès de la variolisation, plutôt de la vaccination. Par exemple, on vous répète assez souvent que Napoléon a rendu la vaccination obligatoire dans la Grande Armée. Eh bien non, c'est pas vrai, il ne l'a jamais fait. On faisait des vaccinations, il y avait des médecins militaires qui le faisaient assez systématiquement, mais c'était pas obligatoire, et il y a toujours eu, surtout là, au début du XIXe siècle, une morale politique qui faisait qu'on pensait que l'autorité politique, institutionnelle, n'avait pas à interférer sur l'autorité, sur la compétence du chef de famille. C'était une réticence morale et sociale. Et ça, je dirais, dans des régimes politiques extrêmement différents. Et alors, au cours du XIXe siècle, on va voir une évolution qui est assez curieuse, c'est-à-dire que des pays développés vont avoir des politiques d'obligation. Les États allemands, la France va y venir à la fin du XIXe siècle, l'Angleterre également. Et dans le cas de l'Angleterre, on va avoir, vers les années 1870-1880, un refus de la vaccination obligatoire au nom de la liberté des citoyens, d'une atteinte, si vous voulez, d'une omnipotence de l'État qui est rejetée par la mentalité politique anglaise. Et alors que l'Angleterre va effectivement renoncer au caractère compulsif, coercitif de la vaccination à la fin du XIXe siècle. En même moment, des nouvelles nations, la Grèce, la Serbie, qui parviennent à l'indépendance, qui constituent leur structure étatique, vont vouloir avoir des législations modèles vont avoir spontanément des législations de coercition. Or, au bout du compte, les résultats statistiquement sont à peu près les mêmes. Parce que l'Angleterre, avec sa politique libérale et non coercitive, a des conditions d'hygiène, d'alimentation, d'habitat, qui font qu'il y a une moindre propagation des épidémies. Et les pays de méditerranéens, mettons, ou de nouvelles créations étatiques, n'ont pas véritablement les moyens de faire appliquer leurs mesures. De sorte que finalement, le taux de protection est le même un peu partout, indépendamment du caractère de la législation. Enfin, c'est assez intéressant, si on veut dire, d'un point de vue institutionnel.
Ah oui, en plein débat actuel sur la comparaison des politiques de santé face au Covid, c'est intéressant de voir qu'il faut parfois un peu d'humilité et surtout mettre beaucoup de facteurs en regard pour juger des résultats et certainement du recul. Pour revenir à cette époque-là, vous avez parlé de personnes devenant anti-vaccins, en quelque sorte par esprit libertaire ou libéral, presque au nom de l'habeas corpus.
Oui.
Est-ce qu'on peut trouver des analogies entre les mouvements anti-vaccins d'aujourd'hui et ceux qui sont nés dans le feu de la naissance du vaccin ?
Oui, il y a mais ce sont des groupuscules, des minorités sectaires, idéologiques, qui effectivement sont en quelque sorte rejettent par principe les aspects préventifs. Ce qui est très compréhensible, c'est-à-dire pourquoi recourir à une intervention qui peut être dangereuse et dont le résultat est incertain dans un moment de santé apparente. Bon, voilà. Si vous voulez, il y a cette. Et puis l'idée qu'on viendrait à contrarier une évolution de la nature qui devrait avoir son libre cours, si on peut dire. Mais ça, je dirais que ce sont des fractions idéologiques très réduites et en réalité qui n'ont pas d'importance. Elles peuvent indigner, elles peuvent faire des éclats dans la presse, attirer l'attention, mais statistiquement, elles n'ont pas grande importance. Et on le voit, enfin je crois. Là, encore une fois, je ne veux pas m'aventurer dans le domaine contemporain, mais on n'a pas besoin de couvrir à 100% une population. Il y a un certain taux de protection, d'immunité, de création d'anticorps. Alors, je ne donne pas de chiffres, mais enfin, il y a un certain taux médian qui permet de garantir le ralentissement d'une épidémie.
Oui, la fameuse immunité de groupe dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
L'autre chose qui m'a vraiment frappé, ce sont les arguments anti-vaccins qui là sont franchement de nature idéologique et qui semble avoir un parfum malthusien ou darwinien. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens, à cette époque déjà, même avant donc les travaux de Darwin, excitent que, après tout, les maladies et les pandémies contribuerait à un équilibre général, régulerait les populations, éliminerait les personnes les plus vulnérables, mais qui n'auraient de toute façon pas eu une bonne vie, et que donc ce serait péché en quelque sorte, même si les arguments ne sont pas théologiques, d'aller contre la maladie.
Bien, oui,
C'est assez étonnant.
mais Malthus est exactement, il a à peu près le même âge que Jenner, il est un peu plus jeune, c'est la même génération. Et la doctrine de Malthus, c'est qu'effectivement, si la population augmente de manière inconsidérée, eh bien, il y aura une sorte de revanche, on ne pourra pas les nourrir et on va accumuler, si vous voulez, les dangers. Il faut avoir une sorte d'équilibre de la population et des ressources ou des savoirs, et une explosion, si vous voulez, de la population est un fléau. Alors, ça rejoint ça, une idée d'équilibre qui serait, si vous voulez, qui viendrait spontanément dans la nature. C'est l'idée que vous avez retrouvée dans Noël au balcon, pas cotison. C'est-à-dire que s'il y a un hiver doux, on va avoir un été pluvieux. Il y aurait une sorte de loi de compensation. On ne peut pas tout avoir, si vous voulez. Il faut. Si vous mangez trop, vous allez avoir une indigestion. Bon, il y a une sorte d'équilibre, de modération dans la nature et donc dans la population et dans le rapport de la population et au territoire qu'elle occupe, voyez. Alors, ça, c'est à la fois. Si on peut lui donner des raisons, des mobiles statistiques. Et puis aussi, voir que ça correspond à une sorte de superstition, l'idée qu'on paye tôt ou tard la dette, que si on abuse, eh bien voilà, ça se retourne contre nous. Voilà, et ça, c'est une sorte de réflexion. Alors là, je dirais intemporelle, je reviens, c'est une superstition tout de même.
Mais écoutez, ça doit être quelque chose de profondément inscrit dans l'esprit humain, car tout récemment encore, on a pu lire entendre certaines personnalités nous dire que la crise du Covid-19 était une façon pour la nature de demander répit ou une vengeance de la nature contre une humanité qui l'aurait trop exploitée et que la planète se protégerait de son exploitation exagérée par cette pandémie. C'est fascinant de voir des constantes comme ça
Oui,
psychologiques.
mais ça suppose une sorte d'anthropisation de la nature. Bon, alors on l'appellerait la providence, alors, parce que comment cette nature pourrait-elle, si vous voulez, avoir des réflexions qui correspondent un petit peu à nos réactions, je veux dire, à nos précautions, à nos superstitions ou à nos craintes ou à nos timidités, c'est quand même étonnant.
C'est le dernier aspect extrêmement surprenant, c'est de voir que du côté à l'époque, hein, je parle bien à l'époque, donc au 18e jusqu'au début 19e, à la fois chez les anti-vaccins et chez les anti-vaccins, il rentre à la fois dans chaque camp des éléments extrêmement rationnels, mais également dans chaque camp des éléments qui tiennent presque du millénarisme ou de l'engouement, des aspects idéologiques, spirituels, moraux, et que donc le débat déborde largement la science, les camps se constituent
Oui.
une
Mais
multiplicité de facteurs.
maintenant, il y a quelque chose qui est fascinant, c'est que des médecins héroïques qui se lancent dans des expériences qu'ils appliquent sur eux-mêmes. L'idéologie du vaccin, l'utopie que le vaccin puisse guérir, pas seulement de la variole, enfin préserver, pas seulement de la variole, mais de tout un tas d'autres maladies, amène des médecins, un Italien qui s'appelle Valli, travaille en grande partie dans le bassin méditerranéen, qui connaît bien l'endémie de la peste au Moyen-Orient, essaie de se protéger de la peste avec le vaccin. Et il s'inocule la peste, il se vaccine, il s'inocule la peste et il en meurt. Je veux dire que d'autres font les mêmes expériences contre la fièvre jaune. On croit que y a une utopie médicale explosive et qui dure assez longtemps. Alors, ce qui est très fascinant dans le cas du vaccin antivariolique, c'est le fait que quand il a été introduit, quand il a été, alors non pas inventé, mais expérimenté par Jenner, on ne savait ni pourquoi, ni comment, ni pourquoi une maladie des vaches pouvait guérir, prévenir une maladie humaine, et quels étaient les principes, les animalcules qui étaient responsables de cette réussite. Il faudra au moins 100 ans pour... trois quarts de siècle, pour arriver justement à l'époque de Pasteur pour comprendre les processus.
Par ailleurs, là, autre effet, mais là de contraste, parce qu'on a vu un certain nombre d'analogies entre cette époque et la nôtre, il y a des effets de contraste très très forts aussi, ce que j'ai trouvé assez, et pas étonnant, mais frappant, c'est la façon dont... des populations, y compris paysannes ou rurales, s'en remettaient extrêmement facilement, non pas aux experts, mais aux notables. Il n'y avait pas la défiance que l'on ressent aujourd'hui, pour le dire plus clairement.
Mais dans l'ancienne société rurale, y a un rapport qui n'est pas nécessairement hostile entre le notable, si on peut dire, qui est le porte-parole, qui n'est pas nécessairement l'exploiteur. C'est pas, si vous voulez, la notion dominant-dominé est tout de même idéologique. C'est une construction. Il y a aussi une philanthropie, une charité. On est dans une société chrétienne traditionnelle, et donc le médecin, le prêtre, le grand propriétaire sont des gens qui sont des intermédiaires qui vont et qui sont mus, alors on pourra dire la charité chrétienne ou la philanthropie maçonnique, quelle qu'il soit, elle correspond tout à fait en tout cas à cette forme de relation de bienfaisance sociale du 18e et 19e siècle. Je crois, oui, que si vous voulez, Marx a souvent tort. L'idée de dominant-dominé est vraiment réductionniste.
Oui, mais c'est une clé de lecture qui finit par transformer les rapports sociaux, en revanche.
Oui, non, mais je veux dire que il est bien évident que les rapports sociaux ne se ramènent pas, si vous voulez, à une lutte des classes.
Autre effet de contraste saisissant, celui qui concerne les espérances mises dans la science. C'est-à-dire qu'on sent effectivement un engouement, vous l'avez dit, quasi millénariste pour ce que pourrait apporter la science, la connaissance, ses progrès.
Pas millénariste, c'est vraiment l'utopie des Lumières.
Oui, mais c'est ça. Le millénariste à titre de...
Le tournant se fait, idéologique, se fait au cours du XVIIIe siècle. Il y a du fait de, dans l'Europe occidentale, il y a plus de famine, il y a des disettes, il y a des chertés, il n'y a plus de famine. Il y a une meilleure, dans les cités, il y a tout de même meilleur moyen d'approvisionnement. Donc il y a un allongement de l'espérance de vie, en France, en Angleterre, dans les années 1730-1750. Et avec l'allongement de l'espérance de vie, le futur, le progrès, il est demain. Auparavant, dans les utopies du XVIe, politique du XVIe, XVIIe siècle, c'était le bon temps jadis. C'était l'idée, on allait revenir au temps du roi Louis XII, au temps où tout était bon, tout était bon. Il y avait un équilibre, justement. Et c'est à partir des années 1730 que l'espérance de vie changeant, se prolongeant, d'idéal politique est devant nous. C'est quelque chose, c'est un changement fondamental, si vous voulez, essentiel pour l'idéologie politique.
Voilà. Il semblerait qu'aujourd'hui, on soit face quand même, pour une certaine part dans nos sociétés, à un nouveau changement fondamental, c'est-à-dire qu'à l'âge de l'utopie que vous décrivez, à peu ou prou, qui est de l'ordre de la dystopie.
Oui, oui.
Aujourd'hui, devant nous, on nous présente non pas un monde radieux, régénéré ou par la science, mais le risque d'un grand effondrement, une collapsologie.
Oui.
Et après, un esprit de la société.
Bien que je sois historien seulement du XVIe au XIXe siècle, j'observe que tout au long du XXe siècle, avec les catastrophes épouvantables qu'a porté ce siècle, il y a toujours eu l'idée que demain, tout serait mieux. Même après la Première Guerre mondiale, même après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit toujours qu'on allait reconstruire, qu'on allait repartir, et qu'il y a à chaque fin de guerre, en 1918, en 1944-45, un immense espoir d'avenir. Si vous voulez, le XXe siècle, malgré toutes ces horreurs, maintenait l'espérance, l'idée que demain serait riant, les lendemains qui chantent. Et puis là, aujourd'hui, voilà, effectivement, il y a un changement d'idéologie globale.
Mais écoutez, je pense que cette dernière réponse illustre à merveille combien l'histoire peut nous instruire et même nous conduire à porter un regard neuf sur notre propre époque dans laquelle nous sommes immergés.
Et c'est alors, je voulais dire tout de même que j'ai fait une postface de mon livre en décembre. Je n'avais rien prévu et je ne voudrais surtout pas que l'on croie que je publie mon livre pour, en quelque sorte, récolter des dividendes de l'épidémie. Je n'avais rien prévu. J'avais rien envisagé, je ne savais pas du tout ce qui allait arriver, mais je dirais que ce n'est pas moi qui suis prophète, mais l'histoire est un petit peu prophète tout de même.
Eh bien alors, plongeons-nous dans le passé pour découvrir, pas nécessairement l'avenir, mais en tout cas pour porter un regard neuf sur notre propre époque et peut-être retrouver l'élan de ces années-là, de volontarisme et d'optimisme aussi, un optimisme actif, car il est parfaitement réjouissant et régénérant. Je te donne les références de l'ouvrage, « La naissance du vaccin entre utopie et rejet » par Yves-Marie Bercé, aux éditions du CERF, dans la collection Histoire Lectio. Merci beaucoup, monsieur.
Merci infiniment.